Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Et aujourd'hui, on va se pencher sur Red Dingue de Danny Boone avec Danny Boone, Alice Paul et Michel Blanc. Et avec moi autour de la table, j'ai deux chroniqueurs, mais au taquet. Alexandre Hervaux, bonjour.
Salut Daniel.
Et Hugo Alexandre, bonjour.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine?
Je suis là pour le groupe d'intervention du RAID.
C'est un danger pour le groupe, une gonzesse.
Une femme, Froissart.
Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque.
Bon, on a une femme, c'est comme ça.
Oh non! Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses.
Effectivement, vous n'êtes pas du tout macho. Je me suis trompé.
Mais oui.
C'est l'histoire d'une fille de ministre qui rêve d'intégrer le RAID, chacun a droit à ses rêves, et qui va finir par y entrer parce que son père, joué par Michel Blanc, espère que ça va l'en dégoûter. Et son instructeur macho, c'est Danny Boone. Et alors, sur ce pitch incroyable, Hugo, est-ce que tu penses que ça a fait avancer un peu la cause des femmes ?
Non, je ne pense pas.
Je suis vraiment surpris de sa réponse.
Crois que le Bechdel test n'aurait pas passé ?
Mais pourtant... J'étais assez client de Danny Boone au début, j'aimais plutôt bien Bienvenue chez Ch'ti et je l'avais même suivi sur Rien à déclarer, qui étaient des films qui étaient assez inspirés de Houry, les tandems Bourville de Funès, et depuis deux films il a un peu changé de braquet, il est un peu plus dans du Pierre Richard avec Superchondriaque et avec Red Dingue donc. Mais moi je trouve qu'il y a deux Pierre Richard en fait. Il y a le bon Pierre Richard qui était dirigé par Francis Weber par exemple dans La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, et il y a le mauvais Pierre Richard qui quand il est dirigé par lui-même par exemple, où en fait il y avait une certaine complaisance dans le burlesque, ses chutes duraient un quart d'heure, il en faisait des caisses, alors que chez Weber c'était plus il y avait une vraie mise en scène du burlesque,
et rythmique, ouais.
Les chutes étaient quasi hors champ, et puis il y avait surtout Depardieu qui était le contre-champ de comédie, ouais. qui mettait en valeur Pierre Richard, et là on est clairement dans du mauvais Pierre Richard.
Il y a pas de Depardieu Danny Boone n'a pas son Depardieu.
Depardieu n'est pas dans Superchondriaque, c'était Danny Boone qui Pierre Richardait, et il était un peu tout seul et c'était déjà raté. Et là Danny Boone il a décidé d'arrêter l'humour, j'ai l'impression, et donc il a décidé que c'était quelqu'un d'autre qui devait porter la comédie, et c'est Alice Paul. Et elle fait un peu de son mieux, mais elle est pas du tout mise en valeur par. Elle y va à fond, mais elle est pas du tout mise en valeur par la mise en scène de Danny Boone.
Et toi, Alex, alors
Elle y va tellement à fond parce que il y a une scène du film moi qui me gêne beaucoup parce que elle aurait pu être drôle. C'est cette fameuse scène où elle fait sa première intervention sur le terrain. Elle est en planque dans une sorte de camionnette qui assure la surveillance de terroristes islamistes. On en reparlera plus tard. Bref, il y a cette espèce de scène complètement incroyable où on est quand même censé être face à une personne qui rêve du raid, qui rêve de la police, donc qu'on imagine non seulement prête au sens physique, même si c'est pas totalement évident, mais elle se prépare, etc., avec des entraînements, mais aussi on l'imagine, elle connaît le matériel, elle connaît la tactique, etc.
C'est une bûcheuse,
hein, c'est une bûcheuse, voilà. Et bizarrement, elle se trouve en vraiment épatée, ébahie, en pamoison devant des ondes d'écoute. Voilà, en fait, un spectre. Il y a les écoutes des terroristes qui sont avec des micros planqués, et elle voit évidemment quand ils parlent et quand elle parle elle-même dans son micro casque, elle voit ces ondes qui voilà évoluent en fonction de sa sonorité, sa tonalité de sa voix, et ça nous offre cette scène-là extrêmement longue. Enfin, je dis extrêmement longue, ça doit durer une minute, mais qui semble durer 3h30, où elle s'amuse à hurler, à changer de tonalité, etc. Et ça m'a fait penser, moi, à ces films, à ces scènes qu'on voit dans les bêtisiers, dans les outtakes des DVD ou dans les génériques de fin de certaines comédies américaines où un Adam McKay va laisser Will Ferrell déconner avec ses comparses devant la caméra, faire des impros, etc. Et il va en garder dans le film, dans le résultat final que le meilleur. Là, Danny Boone, on a l'impression qu'il a fait un peu la même tactique. Il lui a dit, écoute, lâche-toi, joue le rôle de quelqu'un qui est complètement fofolle devant sa propre voix et le résultat que ça peut avoir sur un écran d'ordinateur. Sauf que, au montage, il a juste gardé le pire. Alors, je sais pas, peut-être que c'était le meilleur de ce qu'elle a fourni sur le tournage, donc ce serait un peu problématique pour elle.
C'est pas du tout mis en scène, quoi.
Il aurait fallu mettre
en valeur cette espèce d'exploit personnel, si on peut appeler ça comme ça.
De Tasmanie qui arrive chez le Red, et en fait, finalement, il se passe pas grand chose. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que on part du point de vue que le film, tout est là pour la dégoûter du Red. Donc, on la fait rentrer. Donc, le but de ces mecs, c'est tous de lui casser son rêve.
C'est ça.
Déjà, ça me pose un problème. Ouais. Elle va un peu y arriver, mais par bol, c'est-à-dire à essayer d'être un bon flic. Et en plus, à ça, puisque c'est du copinage, puisqu'elle est féministe, et en plus, elle ajoute à ça le fait qu'elle va coucher avec son boss. Alors, spoiler, évidemment, il y a une fille dans le film et il y a Danny Boone. Évidemment, il va avoir une friction sexuelle entre les deux. Mais en plus, il rajoute le fait que, elle couche pour avoir son taf. Moi, ça m'a un peu sorti du film, cet état d'esprit.
Ouais, en plus, pour le coup, le ministre, en fait, c'est un ministre de l'Intérieur, hein, précisons, donc ministre dont le raid dépend directement. Et je pense que c'est le fait qu'elle couche avec Boone, c'est presque pas le pire dans ce qu'on lui inflige, etc. Moi, c'est vrai que a posteriori, quoi, quand on réfléchit à ce que tu disais à l'instant, le fait que l'objectif des personnages soit de la dégoûter, t'as l'impression finalement de voir un film de bully. Mais au sens, voilà, t'es censé voir quelqu'un pendant 2 heures se faire traîner dans la boue, parfois au sens propre, pour la dégoûter, lui faire briser son rêve, ses ambitions, et la ramener à sa vie d'héritière et de bourgeoise.
À la limite, ça pourrait marcher si le personnage était crédible et si on arrivait à croire à ce personnage, mais ce personnage est tellement pas écrit du tout, finalement, c'est impossible d'y croire et s'identifier. Comme tu disais, elle est complètement abrutie, en fait. Elle est non seulement maladroite, mais c'est impossible de s'attacher à elle parce que cette fameuse scène du van, là, avec ce...
En plus, son univers, enfin, j'y ai jamais cru, son univers, elle est avec Patrick Mill en couple. Mmh. Patrick Mill qui, en plus, est plus petit qu'elle et il met des talonnettes, donc je pense que c'est une blague sarcosiste post-factum.
Voilà,
et tu crois pas à son couple, tu crois pas à ces gens, puis ils ont plein de pognon, mais en même temps, je suis jamais rentré dans le couple du film.
C'est le problème, c'est ce que disait Hugo à l'instant, c'est qu'elle est abrutie, mais elle est mal écrite surtout. C'est un personnage qui est mouvant dans ses. Elle est censée, on le disait tout à l'heure, être à la fois hyper compétente ou en tout cas déterminée, etc. Et en même temps maladroite et tout. Et il y a une sorte de cocktail de mayonnaise qui prend pas, parce qu'en plus, j'ai l'impression que ces rebondissements à elle sont en miroir avec ceux de Danny Boone qui, dans le film, s'appelle Froissart, mais tout le monde le surnomme Poissard parce qu'il a perdu de sa superbe et il se plante de plus en plus sur le terrain. Donc finalement, il y a une sorte de
symétrie. C'est bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il aurait bien voulu le rôle principal de Gaffer.
On ne comprend pas trop.
Alors que lui a fait un stage de sport. Mais alors, il faut en parler des six-packs de Danny Boone. Danny Boone est en train littéralement de devenir une espèce de métrosexuel incroyable. Qui l'eût cru?
Mais c'est ça, ouais. En fait, je pense qu'il n'a pas trop su situer en tant que personnage dans ce film, donc il s'est contenté de faire un truc un peu à l'Actor Studio. Il s'est dit, je vais me faire des pecs de folie, on va me voir torse nu la moitié du temps, ou en Marcel. Et effectivement, il y a aussi cette idylle qui naît, on ne sait pas trop comment, parce que il n'y a aucun prémisse. Enfin, c'est d'un seul coup, ils couchent ensemble et ça devient.
Parce qu'ils ont un peu bu et il lui a montré un peu de Belmondo. En même temps, si tu montres Belmondo à une fille.
Ouais, c'est le guignolo en plus. Ouais.
Ah oui. On va s'écouter une vanne.
Vous êtes 16. Il y a 4 lits par chambre. Faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un groupe de 16.
J'ai parcouru son dossier. Elle a de très grandes qualités.
Je connais ça. Ah, ça énerve, ça.
Caché.
Double.
Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur.
Mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport.
vous préviens, à la première occasion, je la vire.
On peut pas ne pas parler un peu de ces films bicéphales que nous fait Danny Boone. C'est-à-dire, il y a un début, c'est-à-dire celui qu'on te promet dans le titre, c'est-à-dire Red Dingue. Et ensuite, ça devient absolument n'importe quoi. Je pense à Superchondriac qui commençait par un hyperchondriac et qui tout d'un coup se termine en Roumanie, quelque part dans une prison. Et là, ça se termine avec, sans déconner, des gens de l'Est qui débarquent avec des bazookas pour dégommer Volvicomte. Et je sais pas comment il a pu imaginer un truc comme ça. Ça me dépasse complètement.
C'est quand même plus cohérent que dans Superchondriac où effectivement au départ c'était un personnage qui a peur de tout et qui prend des doliprane tous les 4 matins et tout. Et ça basculait vers un truc politique qui avait
avec
absolument
des réfugiés.
Rien à voir avec.
Il a un truc avec l'Europe de l'Est. En tout cas.
Qu'est-ce qui se passe
dans une prison turque ou je sais plus quoi. Et là il y a quand même un peu plus de liens. Ça reste dans l'univers du Raid et tout. Il y a des terroristes serbes. Peut-être qu'on en reparlera après.
Ah non, on va en reparler tout de suite. Et là, il y a un gros problème. Ou grosse qualité, je ne sais pas. Moi, à ce moment-là, j'ai été mindfucké, littéralement. Tout d'un coup, Yvan Attal, qui est quand même un acteur assez intérieur, on va dire. Il n'est pas vraiment connu pour ses comédies, on va dire, même s'il en a réalisé et tout. Mais c'est pas un grand de la comédie. Tout d'un coup, il fait son Heath Ledger. Littéralement, et il se métamorphose en Joker serbe et il attaque Volvicomte à coups de bazooka. Ah oui. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je crois que on a à la fois un lover et un hater sur le plateau là.
Ah non, je crois qu'on est. Je sais pas ce qu'on a pensé. T'en as pensé quoi de?
Je ressens pas de haine, mais une grosse incompréhension.
Sur le SMS que tu m'as envoyé, c'est cette supercherie, voilà.
moi, je suis juste abasourdi, quoi. C'est plus de la stupéfaction, comme quand tu vois un carambolage devant toi. Tu t'aimes pas trop le fait qu'il y ait des gens qui soient morts dans la voiture, mais tu regardes quand
même. Alors c'est pas le carambolage. Moi, je pense que c'est plutôt un mec qui est ivre mort sur la route et qui monte sa bite. Oui, tu vois, c'est à ce niveau-là de mindfuck. C'est genre, qu'est-ce qu'il est en train de me faire?
Pour moi, Attal, en fait, dans le film, on le découvre en braqueur le temps d'une scène de braquage. Donc après, on le revoit dans une scène de bar où il prend son personnage, son faux personnage de d'espion français de la DGSI, etc., qui berne le personnage d'Alice Paul. Après, on le revoit pendant la Gay Pride.
Il est filmé complètement à part. Hein. On est d'accord. Il a filmé ça dans une cave, hein, quelque part.
C'est fort possible. On le voit donc déguisé en femme. En transe, tu vois, en travel. Et ensuite, à la fin, ce que tu disais, c'est exactement ça, c'est le Joker de Dark Knight version cosplay au château de Versailles.
Louis XIV.
Et en fait, moi, du coup, cette variété de scènes, de costumes, d'accents et de trucs improbables, j'ai eu l'impression que c'était
Il la traite de pute en russe, hein, je peux préciser.
C'est un personnage de guest d'un Saturday Night Show moldave, Saturday Night Live, pardon, moldave, où en fait, tu vois, un guest du SNL qui fait son émission, il va avoir plusieurs sketchs, donc il va apparaître dans 2-3 différentes scénettes et avec chaque fois un personnage et un costume différent. Et là, ça m'a fait penser à ça. Genre, Attal, c'est le guest du film de Danny Boone qui apparaît comme ça, pouf pouf, et qui m'a laissé complètement abasourdi.
Et toi, Hugo, ça a pas marché.
Faut vraiment revenir sur l'accent serbe de Yvan Attal, qui est quelque chose. Enfin, moi, au départ, il commence à faire l'accent serbe. Moi, je pensais qu'il faisait semblant de faire l'accent serbe et qu'à la fin, on va se rendre compte que Alice Paul s'est fait berner parce que son accent serbe. Enfin, si moi je faisais l'accent belge, ça ressemblerait plus à un accent serbe que Yvan Attal, quoi. Et en fait, non, c'est il joue vraiment un serbe, quoi. Et c'est. Tu parlais du Joker, moi, ça me fait penser un peu à Gary Oldman dans les films de Luc Besson ou alors.
Mais c'est Gary Oldman dans les films de Luc Besson, il joue un mec cocaïné à chaque fois.
Mais oui, mais là, je pense que c'est son modèle. Mais il sait pas faire. Enfin, il faut pas faire ça.
Alors, il y a un truc qui s'est passé sur le tournage. En fait, il y a eu beaucoup d'improvisation, comme on l'a dit, et ça c'est sûr et certain. Et il l'a joué en roue libre. Et il demandait régulièrement à Danny Boone, est-ce que j'y vais pas trop fort? Et Danny Boone, mais non, c'est bien comme ça.
Non, je vais pas te froisser, parce que je pense que Danny Boone attend le retour il va jouer dans peut-être le prochain film d'Yvan Attal.
Ça va être il a joué dans le précédent film d'Yvan Attal qui s'appelait Ils sont partout.
Ah, le truc avec
une comédie sur l'antisémitisme.
Ouais. Quand tu parles de Danny Boone, je pense que tu mets vraiment le doigt sur le problème, c'est que Danny Boone n'est pas un directeur d'acteur excellent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que peut-être qu'il sait bien se diriger lui-même ou diriger Kadmirat dans le cadre d'un tandem que lui mène, mais peut-être.
Et quand il est bien dirigé, Danny Boone est super. Enfin, je pense à l'année dernière, on a eu le
Radin.
C'est vrai qu'en fait, Danny Boone, il faut penser à un thème global, c'est l'hyperchondrie, le radin, le faillot. Il y a toujours toujours
c'est surtout le fonctionnaire movie, quoi. C'est-à-dire, le mec, il fait postier, il fait douanier, là, il fait raid. À mon avis, le prochain, il va faire les profs 3.
Tu vois. Il y avait aussi un plan parfait de Pascal Chaumet, qui était une comédie romantique plutôt réussie, avec Danny Boone et Diane Kruger, si je me souviens bien.
C'était très bien. Qui était très étrange, mais ça fonctionnait. Il y a une scène qui me fait hurler de rire dans ce film-là, c'est quand elle lui met de l'anesthésion au dentiste, elle est dentiste, et elle lui met de l'anesthésion dans la bouche, et il ressort avec la tête d'Elephant Man. Et il tombe dans les femmes. Et voilà, Danny Boone, il peut réussir, mais il faut qu'il fasse du putain de burlesque, quoi.
Là, dans ce film, il ne prend pas, enfin, il est pas drôle du tout parce qu'il a un rôle de clown blanc.
Puis, comme tu disais, il veut pas l'être, comme tu disais. Il laisse Sabine Azéma en espèce de bourgeoise insupportable mener la danse, et bon, il se met en retrait pour passer passer la main, mais en même temps, pas tant que ça, parce que son prochain film qu'il a annoncé, ça s'appelle, je crois, une ch'tite petite famille ou un truc comme ça, une jolie ch'tite famille.
Oh là, c'est un spin-off.
Comédie avec Lynn Renault et Valérie Bonneton, et où il jouera un designer très bobo parisien qui a honte de ses origines ch'ti et prolo, et un jour sa famille débarque à Paris pour fêter les 80 ans de sa mère, et là, on va rigoler.
J'ai envie de te dire sold. Alors, avant qu'on passe à nos recos, on va juste dire oui ou non on y va, et oui ou non à quel prix, puisque je sais que tu es très à cheval sur la tarification de ton rire, Hugo.
Eh ben, on n'y va pas, et je pense que même si on me payait, j'aurais du mal à y aller, donc je peux dire un tarif négatif autour des moins 5 euros. J'y retourne.
Moins ton salaire de MDR.
C'est quand même un film qui a coûté 26 millions d'euros. Hein. Si personne n'y va.
Putain, 26... Mais ça se voit à la fin. Hein.
Ça se voit un peu à la
fin. Genre, à la fin, tu dis putain, il y a Volvicomte en feu, mais genre, comme le manoir Wayne, quoi.
Avant de dire combien je mettrais pour le film, spoiler alert, pas grand chose. Je voulais juste parler quand même de ce plan final qui est un freeze frame, comme dans les années 80. L'image se fige, et là, il y a une texte qui arrive à l'écran. Je me rappelle plus exactement de la formulation, mais en gros, c'est.
Ah oui, merci,
c'est Lim à la police. Merci pour nous aider à vivre ensemble, etc. Oui, et j'ai eu l'impression de voir la chanson de Renaud, j'embrassais un flic
merci,
en film. Quoi.
Merci de nous protéger pour que nous puissions garder notre pouvoir de rire ou un truc comme ça.
Il y a aussi deux, trois petits tacles à BFM TV, genre c'est quand même scandaleux de diffuser cette image.
Parce que le film est produit par TF1 et on ne voit que LCI comme chaîne d'info pendant tout le film.
Ne me relancez pas parce que les journalistes tels qu'ils sont représentés dans ce film, c'est calamiteux. Et étant journaliste, genre, je me dis, mais ils n'ont pas traîné dans des rédactions très souvent. Et toi alors, on y va ou on n'y va pas.
C'est un film qui même si j'en profite pour casser ça au passage, c'est que Danny Boone, contrairement à un mec comme Philippe de Chauvron qui fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc., c'est un gars qui a un petit peu, les 26 millions d'euros de budget sont peut-être aussi, n'y sont pas pour rien, mais c'est un mec qui a un peu quand même le souci du cadre, du décor, etc. C'est tourné en scope et tout.
À la fin, est vraiment chouette.
Voilà, donc il y a quand même une maîtrise et une photo, etc. Et un montage qui est pas illisible, qui est assez fluide et tout. Donc c'est pas un film qui donne envie de s'arracher les yeux purement visuellement. Donc au cinéma, ça mérite en fait. C'est un film qui peut être vu sur un grand écran, mais pour tout ce qu'on a évoqué depuis 20 minutes, c'est pas un film pour lequel, sauf si vraiment vous avez la carte UGC et que vous avez vu tout ce qui est dans votre cinéma.
Ben moi, tarification UGC, j'y vais quand même parce que je veux dire, il y a Yvan Attal. Il y a Yvan Attal en roue libre, comme tu n'as jamais vu quelqu'un en roue libre depuis Sophie Marceau, je pense.
Plus jamais ça.
Allez, on fait les recos. Hugo, qu'est-ce que tu as recommandé?
Alors moi, je pense que je vais être très très seul sur ma recommandation parce que je vais recommander un film qui s'appelle Bienvenue à bord, un film d'Éric Laven de 2011, qui est un film qui est un peu similaire à...
Attends, tu rigoles avec Franck Dubosc?
Oui.
Ah putain, mais les scènes de Franck Dubosc sont parmi les plus drôles.
Non, mais il y a un gros malentendu sur ce film parce qu'il sortit à peu près en même temps qu'un autre film de croisière qui s'appelle La Croisière.
De Charlotte de Turquem.
Qui est vraiment abominable. Ouais. De Pascal Pouzadou.
Avec Charlotte de Turquem.
Avec Charlotte de Turquem, Jean Benguigui.
Non, celui-là il est atroce. Mais par contre, Bienvenue à bord est vraiment.
Bienvenue à bord est très bien. Donc ça raconte l'histoire d'un individu qui est embauché pour une mission pour laquelle il n'est pas du tout qualifié. Donc un peu comme Red Ding. Et un peu comme La Chèvre beaucoup plus loin. Qui est de mes films fétiches, et je trouve que c'est beaucoup plus réussi parce que Franck Dubosc est un génie, il faut le dire, et en plus en tandem avec Gérard Darmon, je trouve que ça marche vraiment très très bien. C'est un des meilleurs tandems que j'ai vu,
et Valérie Le Mercier en cassante et tout,
et Valérie Le Mercier, voilà, donc je vais pas en dire plus.
Non, grand,
découvrez ce film.
C'est un sleeper hit de Franck Dubosc.
Vous m'avez convaincu parce que c'est, en vrai j'ai pas vu le film, et en vrai j'ai toujours eu un petit faible pour sa bande annonce, et là du coup tu me l'as vendu
le moment où littéralement il fiste une marionnette pour faire
spoil pas
ah non non tu vas voir, c'est extraordinaire. Vas-y, à toi.
Et moi, Marocco, alors Marocco, on s'éloigne des latitudes françaises, on part aux États-Unis, mais dans le côté femme, flic, comédie, buddy movie, etc., j'ai pensé aux Flingueuses, The Heat en VO. C'est dispo sur Netflix, donc le film de Paul Feig avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock. C'est assez hilarant. C'est voilà, le buddy movie comme on a l'habitude de voir, comme on voyait plutôt à une certaine époque, dans genre les années 80 notamment, mais remis au goût du jour. C'est bourré de gags très drôles. Il y a plein de guests qui apparaissent, etc. Et voilà, The Heat, les Flingueuses.
Eh ben écoutez, moi, vous m'avez donné envie de revoir Radin, en fait.
Ah ben.
Radin, qui est sorti l'année dernière, qui sort en ce moment en DVD et qui est un peu le dark d'Danny Boone, puisque il est réalisé plutôt par un pro du polar, et du coup ça donne,
c'est Fred Cavaillé,
et du coup ça donne vraiment une vision très noire de ce que peut faire Danny Boone, qui est un vrai bon acteur. Et Cavaillé, il le dirige vraiment bien, et il n'y a pas de rédemption sur son personnage. Et je suis très agacé souvent quand les personnages deviennent trop gentils, tout ça. Là, il essaye de se soigner, mais ça reste quand même un putain de radin, et c'est ça qui est assez intéressant dans
le film. plus gros succès en salle de Danny Boone en acteur simple, hors réalisateur.
Hors bienvenue.
Parce qu'il est assez content de ça, il le dit dans chaque interview.
Et merci au Radical Jude à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et puis sur toutes vos applis dédiées au podcast, sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires, et même d'en parler autour de vous, pourquoi pas. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec tellement de comédies, en fait. On a le choix, on a Alibi.com, on a Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Pff, ça va être dur de choisir. Allez, à bientôt.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien.
Et moi, Antoine Cyr.
La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives, et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman.
Avec des ressorties.
Des rétrospectives.
Des histoires de cinéma.
Alors, c'est elle aussi, John Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford.
Des livres et des DVD.
Et bien sûr, des invités.
Costa Gavras, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.